Social Club, Frédéric Taddeï.
Ce soir, mes invités sont Éric Emmanuel Schmitt pour sa pièce sur Feydeau, Georges et Georges au théâtre Rive Gauche, le réalisateur Bruno Dumont pour sa série télévisée sur Arte, Petit Quinquin. Je reçois l'un des plus grands antiquaires du monde, c'est Nicolas Kugel pour son exposition Vermeilleux sur les objets en vermeil, Ingrid Astier pour son éloge de la nuit, et après les informations de 21h, je recevrai Alain Duhamel qui publie son histoire personnelle de la 5ème République chez Plomb.
Europe 1 Social Club.
20h, 22h. Frédéric Taddeï.
En quoi l'art et la culture de ce début de 21e siècle sont-ils différents de ce que l'on a pu connaître au 20e, dans les années 80, dans les années 70, dans les années 60? Éric Emmanuel Schmitt, c'est une question que je pose tous les jours, mais je suis sûr que vous avez une réponse.
On ne drague plus dans les bibliothèques.
Vraiment?
Ben oui, parce que maintenant tout le monde consulte sur Internet. Les bibliothèques étaient avant non seulement un lieu de savoir, mais un lieu d'effleurement, de regard, de stratégie, d'attente, de surveillance des horaires. C'était profondément érotique, les bibliothèques. Moi, j'ai fait une thèse, pas seulement pour faire un doctorat, mais
sur Diderot, si je me souviens bien.
Oui, c'était Diderot et la métaphysique. Mais je me suis bien intéressé à Diderot et l'érotique pendant toutes ces années-là. Donc voilà, je regrette la perte érotique des bibliothèques.
Bruno Dumont.
Moi, je dirais, c'est l'esprit des gens, quoi. Il n'est plus le même parce que la mondialisation, l'Europe, tout ça trouve beaucoup d'importance dans la tête des gens. Et donc, ça conditionne forcément tout, en fait, la façon de travailler, la façon de concevoir, la façon d'entreprendre, de faire ou de ne pas faire.
Les films que vous faites, on parlera de votre série télévisée, mais les films que vous faites normalement sont différents de ce qu'ils auraient été il y a 15 ou 20 ans. Vous luttez, vous résistez.
Voilà, je vous ai donné le terrain. Moi, je fais pas des films européens, je fais pas des films mondiaux, donc je reste dans mon terroir.
Ouais. Petit Quinquin, c'est inexportable d'après vous, ou c'est au contraire, c'est parce que c'est tellement singulier et localisé que c'est exportable?
Je pense que c'est tellement particulier que finalement on arrive aussi à le vendre à l'étranger, oui.
Nicolas Kugel.
Alors moi, dans le marché de l'art, tout ce que je peux dire...
De l'art ancien, vous êtes l'un des plus grands antiquaires du monde.
Là, justement, le marché de l'art s'est beaucoup plus développé vers l'art contemporain et vers des choses plus modernes et plus tournées vers le futur. Et nous qui défendons l'art du passé, on a moins de public, mais... On continue, et c'est, comme disait mon voisin, c'est notre spécificité qui va faire revenir les gens vers l'essentiel.
Paris n'est plus la capitale de l'art contemporain, ni de l'art moderne, mais c'est encore la capitale des antiquités.
C'est encore la capitale de l'art aussi contemporain. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, bien sûr. En effet, la globalisation fait que maintenant, il y a des centres, de création qui sont éloignés de Paris, c'est sûr, bien sûr.
Et les antiquités, en revanche, c'est toujours Paris.
Et les antiquités, c'est toujours Paris, parce que c'est notre spécialité, nationale, en particulier les arts décoratifs. Et ça fait encore rayonner Paris et la France, et ça fait encore rêver la planète.
Ingrid Astier, qu'est-ce qui a changé pour vous?
Je dirais le cosmopolitisme, en fait. Donc maintenant, vous pouvez manger une part de pizza en embrassant votre amant japonais, les pieds sur un faux tapis persan créé à Shenzhen, en ouvrant un livre islandais et en rêvant d'aller en quelques heures seulement, ce qui est bien dommage, au bout du monde.
Pourquoi c'est bien dommage? Vous préfériez quand ça prenait 6 mois?
Ben oui, absolument. D'ailleurs, je l'ai mis en pratique. Je reviens d'Irlande, je devais revenir en avion, j'ai raté mon avion, donc j'ai pris un bateau et j'ai mis 17 heures et c'était un des plus beaux moments de ma vie.
Europe 1 Social Club.
20h, 22h. Frédéric Taddeï.
Éric Emmanuel Schmitt, votre nouvelle pièce Georges et Georges est parue au Livre de Poche, mais elle est surtout à l'affiche du Théâtre Rive Gauche. Mise en scène de Steph Suissa avec Alexandre Brasseur, Christelle Reboul, Véronique Bélanger, Thierry Lopez, Zoé Non et David Sardou dans le rôle de Georges Feydeau. On dirait que vous êtes amusé à plonger Georges Feydeau dans une pièce de Feydeau.
Oui, voulu faire un. J'admire Feydeau pour sa mécanique implacable qui n'a l'air d'une mécanique que le temps d'un acte, puisqu'après c'est la folie pure, c'est le chaos. Donc j'admire cette construction et cette déconstruction qu'il y a dans les pièces de Feydeau. Et donc pour ces motifs très très intellectuels, je me suis enfin autorisé à écrire une pièce comique. Finalement, c'est vraiment la première fois de ma vie. J'ai plutôt fait des pièces qui étaient des drames avec éventuellement un peu d'humour. Mais là, une vraie pièce comique avec comme personnage Georges Feydeau qui est confronté au fond au personnage de sa vie, mais aussi au personnage de son œuvre.
Et alors le décor d'abord, des portes, uniquement des portes, puisque on sait bien que dans les vaudevilles, dont Feydeau était l'un des grands maîtres, les portes claquaient.
Voilà.
Et bien là, il n'y a que des portes.
Voilà, et les portes claquent 163 fois pendant le spectacle. Je voulais 164, mais je n'y suis pas arrivé.
Le quiproquo a été beaucoup galvaudé, notamment au cinéma. Oui. On a vu des comédies très lourdingues avec des quiproquos qui n'en finissaient plus. Il y a un art du quiproquo. Feydeau en était là aussi l'un des maîtres. Est-ce que c'est difficile?
C'est-à-dire que chez Feydeau, le quiproquo n'est pas un effet, mais une matrice. C'est-à-dire
expliquez-nous.
Généralement, il y a un quiproquo dans une pièce, quelqu'un est pris pour quelqu'un d'autre. Tandis que dans les pièces de Feydeau, tout le monde est pris pour quelqu'un d'autre.
Lui-même se prenait pour quelqu'un d'autre.
Et lui-même peut-être avait beaucoup de mal avec sa propre identité. Et on sait très bien qu'il a fini fou dans un asile à Rueil-Malmaison.
Il sera interné, et c'est là qu'il mourra.
Hein. Exactement. Et en fait, son œuvre est vraiment une œuvre sur la folie, puisque qu'est-ce que c'est la folie? C'est le divorce entre la réalité et ce qu'on en pense. Or, aucun des personnages ne pense que le personnage réel qu'il a en face de lui est véritablement le personnage qu'il est. Donc, en fait, chez lui, c'est l'art du quiproquo qui devient vraiment un principe, un système, et qui fait que, voilà, personne n'est pris pour qui il est, et c'est ce qui rend le spectateur jubilant, parce que le spectateur sait 10 000 fois plus de choses que les personnages qui se cognent les uns contre les autres, qui se cognent aux portes, qui se cognent aux murs. Et donc, c'est vraiment une œuvre dont qui nous offre la jouissance de voir au fond comme les hommes sont bêtes et s'enferrent dans leur libido, dans leurs obsessions, etc.
Alors on voit que Éric Emmanuel Schmitt, que vous êtes beaucoup amusé à prendre tout ça presque au pied de la lettre d'ailleurs, oui. Puisque dès le départ dans votre pièce, la femme de Feydeau ne reconnaît plus son mari, c'est déjà une forme de quiproquo. Elle ne le reconnaît pas non plus tel qu'il était, c'est-à-dire pour elle sous-estime totalement le talent de son mari en tant qu'écrivain. Pour elle pensait qu'il écrivait des farces pour faire rire les imbéciles. Voilà. Est-ce que c'est le cas? Marianne Feydeau, la femme de Feydeau, était véritablement dans ce cas-là ou c'est vous qui l'avez inventé?
Elle était un peu comme ça, c'est-à-dire elle était la fille d'un grand peintre, Carolus Duran. Elle avait vécu dans un milieu très élégant, très artistique et au fond, elle a épousé quand même un homme qui faisait se dilater le boyau de ses contemporains. Elle n'avait pas beaucoup de considération pour ça, et surtout leur couple était véritablement un couple qui a très vite souffert, puisque lui n'était pas du tout un sentimental, ce n'était pas un amoureux, je pense qu'il a voulu faire un beau mariage, il a voulu croire qu'il pouvait arrêter de courir les filles, et donc il a pris cette très jolie femme-là, et elle a été aussi très 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 déçue, donc c'est un couple qui bat de l'aile, et la pièce commence quand un médecin, le docteur Galopin, va se servir de son fameux fauteuil électromagnétique pour les soigner. Et à partir de là, ça part en couille, parce qu'au lieu de les soigner, ça va évidemment multiplier les problèmes.
Mais alors, le fait que sa femme sous-estime Georges Feydeau, je suis sûr que ça vous a amusé. Pour une autre raison, c'est que vous-même, parfois, on vous sous-estime, Éric-Emmanuel Schmitt. Mais... En dépit du fait que vous êtes l'un des auteurs français de théâtre les plus joués dans le monde, vous pouvez avoir de très mauvaises critiques, on peut dire que vous êtes un auteur de deuxième ordre, etc. Tout ce qu'on dit sur tous les auteurs, d'ailleurs. Mais là, tout à coup, c'est une occasion de se venger.
Mais surtout qu'il ne change pas, ça porte bonheur.
Ah bon,
voilà. Non, mais moi je souffre de rien du tout.
J'ai pas dit que vous souffriez, mais vous pouvez vous venger quand même quand on souffre pas. Les indemnes aussi ont le droit de se venger.
Oui, et puis de toute façon, une vengeance c'est toujours un désir de reconquête, que ça soit en amour ou dans la vie. Dans mes écrits, j'ai toujours présenté des auteurs ridicules. Il n'y a jamais eu un auteur digne de ce nom. Ils sont tous absolument grotesques, parce que je pense qu'il faut aussi avoir de l'humour par rapport à sa propre fonction et à ses propres ambitions ou exigences. Donc c'est vrai que Feydeau est complètement perdu entre sa libido, ses rêves déçus, son ambition d'être connu, ses
et
problèmes
son
d'argent.
Son double aussi, puisque et ça s'appelle Georges et Georges.
Oui,
et
parce que
à cause de ce fameux fauteuil électromagnétique du docteur Galopin, on va se retrouver avec deux Georges Feydeau.
Voilà, c'est-à-dire
un vrai et un rêvé.
C'est un fauteuil extraordinaire, puisque si on s'assoit sur ce fauteuil et qu'on pense à la personne, qu'on pense à quelqu'un, il se produit une hallucination objective. C'est-à-dire que la personne apparaît.
Est-ce que le docteur Galopin a existé? parce qu'à l'époque, il y avait les magnétiseurs, tout ça, c'était très à la mode.
Alors, il n'y a pas eu de docteur Galopin, mais c'est typiquement un nom que Fedot aurait pu donner à ses personnages, puisque c'est un osseur, c'est ce qui est joué par Alexandre Brasseur. Mais Fedot lui-même était fasciné par les progrès de la médecine, les fauteuils magiques, les fauteuils hypnotiques, etc. Donc, j'ai repris ce thème parce qu'il me semblait totalement Fedot. Et effectivement, voilà, les personnages se dédoublent, puisque Georges va se trouver en face du Georges rêvé de sa femme, c'est-à-dire de l'amoureux naïf et sentimental. Et personne ne comprend qu'en fait, il y a deux Georges, le cynique, épuisé, et le naïf sentimental. D'autant plus que le vrai a une maladie assez étrange, c'est-à-dire qu'il est victime d'une inversion. Alors, c'est pas une inversion sexuelle, c'est une inversion affective, c'est-à-dire quand il devrait rire, il pleure, et quand il devrait pleurer, il rit.
Il est très étonné de rire devant les tragédies de Corneille, par exemple.
Oui, il est obligé de se taper les tragédies de la Comédie française pour rigoler un peu, donc ça l'épuise quand même, toute cette histoire.
Et ça aussi, il a pu l'avoir, Georges Fedot, il en a collectionné quelques-unes, donc des maladies mentales.
Non, celle-ci, il n'a pas eu. Lui, il avait vraiment, en fait, à la fin de sa vie, vous savez, une syphilis avec conséquences méningées, exactement comme Maupassant. Et donc, ces délires portaient beaucoup sur les animaux, ce que j'ai quand même reproduit dans la pièce. Et puis aussi sur son origine, puisqu'on disait qu'il était soit le fils de Napoléon III, soit le fils du frère de Napoléon III, le duc de Morny. D'ailleurs, sa mère n'a jamais répondu. Le seul indice qu'elle a donné, c'est: comment voulez-vous que mon Georges, qui est si intelligent, soit le fils d'un imbécile pareil que l'empereur? Donc, c'était donc le fils du duc de Morny.
Vous pensez-vous?
En tout cas, lui, à la fin de sa vie, il croyait, il préparait son sacre à Notre-Dame, il était parti dans ces souvenirs-là, ou dans ses...
Enfin, il était vraiment parti. Hein.
Ben, malheureusement, il avait des moments de lucidité. Sacha Guitry a très très bien raconté les visites. Sacha Guitry, tout jeune, allait visiter Georges Fedot et était très très fidèle. Et voilà, il raconte à la fois des moments où Georges Fedot est normal et poétique, et des moments où Georges Fedot délire. Il est tout aussi poétique, mais c'est gravissime.
Georges Fedot qui est mort en 1921. Oui. Alors la pièce, la vôtre, se situe bien en amont. Hein, oui. On est à la fin du 19e siècle et tout à coup, Georges Fedot déclare: un partout, balle au centre. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça. Vous pensez vraiment qu'il y avait des métaphores footballistiques en 1890?
Non, mais on s'amuse avec certains anachronismes. Mais vous savez, on s'amuse toujours comme ça. Giraudoux, quand il fait la guerre de Troie, il parle de l'actualité de 1920 et 1930. Donc, il n'y a absolument pas, vous l'avez vu d'ailleurs, ni dans les décors, ni dans les costumes, de reconstitution historique. C'est véritablement une pièce hommage.
Georges et Georges, d'Éric Emmanuel Schmitt, au théâtre Rive Gauche, mise en scène Steph Suissa, avec David Sardou dans le rôle de Georges Fedot, Alexandre Brasseur, Christelle Reboul, Véronique Bélanger, Thierry Lopez, Zoé Non. On se retrouve dans un instant.
Europe 1 Social Club.
Frédéric Taddeï.
Bruno Dumont, vous connaissez, réalisateur de cinéma. Là, vous venez d'écrire et de réaliser Petit Quinquin, une série de 4 épisodes de 52 minutes, dont les 2 derniers épisodes seront diffusés jeudi soir sur Arte. On pourrait dire que c'est une mini-série d'auteurs, comme il y a des films d'auteurs. Normalement, on le sait, les séries télévisées, il y a celui qui en possède l'esprit, et puis après, les réalisateurs et les scénaristes s'activent. Là, vous avez tout fait tout seul.
C'est vrai qu'en général, on sait qu'il y a environ 30-40 scénaristes, quoi. Donc beaucoup de gens travaillent sur les séries qu'on voit dans les télévisions du monde. Et là, en même temps, c'est l'initiative d'Arte. Hein. Moi, j'ai travaillé comme je savais travailler. Donc j'ai effectivement travaillé tout seul. J'ai travaillé comme je travaille d'habitude. Et on m'a pas demandé de travailler avec quelqu'un d'autre, etc. Donc on m'a laissé tranquillement faire à la télévision ce que je fais au cinéma.
Alors, c'est 4 fois 52 minutes. C'est encore humain. Hein. On n'en est pas aux 250 ouais. épisodes de Lost ou l'équivalent. Et on voit bien, là, vous avez fait une comédie policière qui ne répond pas du tout aux standards. D'abord parce que c'est une comédie, justement. Et rien que pour ça, déjà, voilà. On est dans un autre monde.
Bah oui, c'est un peu comme le vaudeville. Hein. Moi, j'avais envie aussi de faire exploser. En fait, c'est une explosion. Là, c'est faire exploser un genre policier qui est ultra connu, ultra traité, etc.
L'enquête
policière. Et donc, je fais tout dérailler, en fait, à la fois dans le récit, mais aussi bien dans la distribution des rôles, etc. Et du coup, c'est assez drôle, quoi, je pense, oui.
Alors, ce qui frappe en premier, c'est les visages. Les visages, d'ailleurs, des enfants comme des adultes. Les enfants petit Quinquin, c'est un enfant. Il ressemble à Aldoré. Vous vous souvenez d'Aldoré, qui était un grand second rôle hollywoodien. Il a exactement la même tête, les yeux bleus.
Oui,
comme
on m'a dit qu'il ressemblait à James Cagney, donc aux acteurs
beaucoup
américains.
Beaucoup plus à Aldoré, croyez-moi.
Des années 40, non, mais qui avait des gueules, quoi, des mecs qui,
mais voilà,
qui avaient des gueules.
Ce qui nous frappe, ce sont les visages. Les visages des enfants et des adultes, on a l'impression, alors ce ne sont pas des acteurs.
Mais si, dès que quelqu'un joue, il est acteur, par la force des choses, donc on peut pas dire, ça veut rien dire qu'il est pas acteur, il est acteur parce qu'il interprète une action, il interprète un dialogue.
Un dialogue que vous avez écrit auparavant,
donc. Que j'ai écrit auparavant, et j'ai passé quand même une année à dégager entre ceux qui savent jouer et ceux qui ne savent pas jouer. Donc ceux qui sont là, ce sont ceux qui savent jouer, qui interprètent et qui jouent. Donc ils sont acteurs.
Autre exception, les silences. Il n'y en a jamais dans les séries, ou très rarement, bien que les séries soient devenues légales, parfois même supérieures aux films de cinéma depuis quelques années. Ça, c'est un des phénomènes des années 2000. Néanmoins, les silences ne sont pas aussi appréciés par les auteurs ou les réalisateurs des séries américaines que par vous, Bruno Dumont.
Oui, parce que je pense que c'est ma façon de travailler. Donc moi, j'aime bien le suspense du silence, c'est-à-dire que quelque chose va arriver avant qu'il arrive. Effectivement, on est plongé souvent dans une forme d'attente. Et j'ai pas changé ma façon de travailler parce que j'étais à la télévision et j'ai pas cherché à couper les silences. Donc je les ai gardés.
Les accents, ils sont à couper au couteau. Ça se passe dans le Boulonnais. Mmh. Ça pourrait être sous-titré Bienvenue chez les Ch'tis, les vrais, cette fois.
Voilà.
On dit qu'ils tendent à disparaître, ces accents. Le groupe Zebda, qui était dans cette émission il y a quelques jours, vient de sortir dans son dernier album une chanson pour dire, ça y est, les accents, c'est fini. Là, vous prouvez que ça n'est pas le cas.
Ah, c'est pas le cas. Dans le Boulonnais, il y a un véritable accent. Et non, et les acteurs ne forcent absolument rien. Je n'appuie sur rien. Je n'ai pas cherché à appuyer, à déformer leur...
Mais même le commandant de la gendarmerie nationale a un accent à couper au couteau. On se dit normalement le commandant de la gendarmerie,
il est totalement accentué fortement, et moi je trouve ça très, c'est vraiment du plaisir à entendre, voilà, des phrases, du vocabulaire qu'on connaît pas, on comprend pas tout ce qu'il dit, et je trouve ça très beau.
Et vous n'avez pas décidé de le sous-titrer ?
Surtout pas. Non.
Mange tes morts, un film dont on a parlé dans une émission précédente, ils ont sous-titré parce que ce sont des gitans. Le langage est magnifique, mais de peur que là, non, pas de risque.
Mais justement, je voulais pas que ce soit trop écrit, trop littéraire, etc. Et dans la vraie vie, on rencontre des gens, on comprend pas forcément tout ce qu'ils disent.
Et c'est donc pas gênant.
Bah dans la vie non, ça peut être gênant, mais je trouve que cette gêne est intéressante dans la perception des gens, quoi.
Éric Emmanuel Schmitt, et ça peut se poser dans la rapidité parfois à laquelle on donne des répliques, dans la manière de Fedo par exemple, dans Georges et Georges. Des choses qui peuvent échapper.
Mais Fedo était passionné par les accents, justement. C'est un des grands théâtres à accent. Il y a toujours des étrangers, il reproduit l'accent espagnol, l'accent allemand.
Vous en avez la princesse de Batavia.
Et moi voilà, j'ai la duchesse de Batavia, ancienne grande duchesse de Topinambour, qui a un accent alsacien, que moi j'ai dû le transcrire sur le papier. J'ai pas de mal, ma grand-mère était alsacienne.
Alors, Bruno Dumont, c'est l'histoire au départ, le point de départ, c'était votre enquête, c'est une vache morte retrouvée à l'intérieur d'un blocos et baignant dans du sang humain. On va s'apercevoir très vite qu'il y a une femme décapitée à l'intérieur. Mmh. Ensuite, une série de meurtres sur lesquels tout le monde enquête. Ce qui est très amusant dans Petit Quinquin, c'est que les adultes semblent pour la plupart totalement à la ramasse. Sont eux qui mettent le bordel, le mot bordel d'ailleurs revient sans
souvent,
arrêt, et sont les adultes qui mettent le bordel, ce sont eux qui sont ridicules. Les enfants en revanche, menés par Petit Quinquin, ont l'air plus sérieux et surtout ils ne sont jamais grotesques.
Pas encore, oui. Mais en même temps c'est des petits hommes, on sent bien qu'il y a
déjà,
quand même quelque chose qui est en train de naître, il y a quelque chose qui est en train d'être pondu, et on sent qu'ils sont capables d'être mauvais quand même et qu'ils sont capables d'être sournois, etc. Mais en même temps je reste effectivement dans la beauté, dans la naïveté de l'enfance.
Vous y croyez ou c'est un parti pris?
J'y crois, ça m'amuse. Non, je pense qu'il y a quelque chose de beau dans l'enfant, et en même temps non, quoi. Je pense
il est que... moins con que nous, il est moins ridicule, moins grotesque.
Je pense qu'on est tous un peu cons et tous un peu non, enfin, et on l'est pas non plus. Enfin, j'ai ni une vision pessimiste ni optimiste. Je pense qu'on a une grande capacité plastique à faire tout et son contraire. Qu'on est d'une grande duplicité et que le monde va comme ça. Et pour revenir à la mondialisation dont je parlais tout seul, c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre, ça. C'est-à-dire qu'on veut que le monde soit droit. Alors que moi, je pense que les êtres ne sont pas droits. Nous sommes pas droits. Donc, il est impossible de tenir dans la droiture. Et donc, j'ai plaisir à raconter des histoires. On voit effectivement que tout est dégingandé, en fait.
Toute cette histoire, Bruno Dumont, est-ce que vous auriez pu la raconter dans le Sud, par exemple? Il se trouve que là, elle se passe dans le Nord. Je l'ai dit, c'est un peu bienvenu chez les ch'tis. Mais...
Bah non, parce que je connais pas bien le Sud. Enfin, parce que
vous êtes un homme du Nord.
Pour faire, il faut connaître quand même. Ouais. C'est-à-dire, pour faire de la fiction, il faut quand même maîtriser un peu les gens. Il faut avoir leur confiance. Il faut connaître les paysages, savoir où mettre la caméra. Donc le Sud, je ne connais pas bien. Pas assez bien pour y tourner, oui.
Alors moi, j'ai trouvé qu'il y a un petit côté Jean-Pierre Mocky chez vous dans cette série. Est-ce que vous allez le prendre mal ou est-ce
non,
que
je prends bien,
c'est une
oui.
filiation que vous voulez bien
oui,
admettre.
Oui, il y a quelque chose de sarcastique.
Ses gueules, ses accents,
ses gueules, oui.
Ce côté absurde, parfois délirant.
Malséant.
Oui.
Voilà.
Mal élevé.
Mal élevé, disons-le. Oui, oui, non, ça me plaît bien.
Le cinéma de Jean-Pierre Mocky,
oui, oui, tout à fait. Ah, oui, j'aime bien. Oui, je trouve ça c'est très rafraîchissant. C'est très. Et puis je l'ai rencontré récemment. C'est un type qui a peur de rien, quoi.
Petit Quinquin, la mini-série de Bruno Dumont, c'est sur Arte. On peut voir les 3e et 4e épisodes jeudi soir.
Europe 1 Social Club.
20h, 22h. Frédéric Taddeï.
Nicolas Kugel, vous organisez une exposition avec votre frère Alexis intitulée « Vermeilleux » à la Galerie Kugel qui est installée dans l'hôtel Colo, 25 quai Anatole France. Un bâtiment très impressionnant, hein, c'est un immeuble entier. Vous êtes considéré comme les plus grands antiquaires de France, peut-être même du monde. J'ai l'air d'en rajouter quand je dis ça, mais tout le monde dit « c'est normal, les Kugel, ils sont spécialisés en rien, mais ils sont bons en tout ». Est-ce que vous le revendiquez ?
C'est très gentil, mais de toute façon, comme je disais, comme la France est le centre de ce qu'on fait, donc si on est bon en France, on est bon dans le monde. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où il y a une offre d'antiquité comme à Paris.
Et puis, ça n'a pas commencé avec vous et votre frère, hein, c'est la 5e génération, mais vous avez pris, vous, la succession de votre père en 85. Et d'ailleurs, cette exposition, c'est un hommage à votre père, Jacques Kugel. Il y a 50 ans, il avait organisé dans la galerie qui était à l'époque rue de la Paix, une exposition consacrée donc à l'argent doré de Strasbourg, ce qu'on appelle le vermeil. Et c'est cette même exposition que vous refaites aujourd'hui, plus grande, plus ambitieuse encore qu'il y a 50 ans ?
Oui, avec plus de pièces, mais en tous les cas, c'est pour redonner une lumière sur l'argenterie de Strasbourg, qui est la plus belle dorure qu'on a jamais faite, en particulier au XVIIIe siècle, et c'était une argenterie qui était désirée et achetée par toutes les cours d'Europe. Et
le vermeil, c'est de l'argent doré.
C'est de l'argent doré. Il y a une couche d'or sur une couche d'argent.
Et les meilleurs, c'était à Strasbourg.
Les meilleurs, c'était à Strasbourg parce que les orfèvres avaient demandé de garder, au moment du rattachement de l'Alsace à la France, le titre plus bas d'argent qui était utilisé en Allemagne, et le titre supérieur d'argent qui était utilisé en France empêchait l'or d'adhérer, et c'est pour ça que la couleur du vermeil de Strasbourg est plus profonde que n'importe quel vermeil français.
Le vermeil a été recherché, enfin le vermeil de Strasbourg a été recherché par les plus grands collectionneurs. On voit par exemple la plus grande partie de la collection d'Alain de Rothschild, elle est présentée dans cette exposition qui se tient dans votre galerie, Nicolas Kugel, pour la première fois on l'a vu. Mais il y a des objets qui ont appartenu à Anténor Patino, par exemple, qui était l'homme le plus riche du monde, je ne sais plus à quelle époque.
Oui, dans les années 50.
Voilà, les David Veil, tout le monde a collectionné, tous les gens qui étaient des grands collectionneurs ont collectionné le vermeil. Aujourd'hui, ça paraît totalement suranné quand on voit tous ces objets magnifiques, par ailleurs, on va les décrire, mais ça paraît très lointain.
Écoutez, c'est lointain, mais il y a toujours des gens qui sont sensibles, parce que quand on regarde des objets pareils, on est l'œil est caressé par les reflets, par la beauté de la couleur. Et moi, je pense que même si c'est suranné, ça continue à avoir un intérêt aujourd'hui. Et en tous les cas, on a beaucoup de monde qui viennent et les gens sont contents.
On voit des gobelets gravés, des coupes, une en forme d'ours datant du XVIe siècle. On peut toucher son pelage, c'est absolument extraordinaire. On voit des écuelles, pas pour les chiens, les écuelles c'était des vrais, avec des anses, des plats. Il y a des couverts, des épées, des tabatières, des services de toilette, des sonnettes pour appeler les domestiques, des flacons, des brosses. Tout ça est absolument magnifique. Et la première chose qu'on se dit, c'est tellement précieux. Le travail est tellement extraordinaire. Le travail de gravure, on se dit, bon sang, les riches autrefois, ils savaient vivre beaucoup mieux que les riches d'aujourd'hui. C'est fou ce que les riches aujourd'hui, en comparaison des anciens, vivent comme des ploucs.
Ah, tout à fait, oui, absolument. Ils n'ont la différence de train de vie entre la classe dominante du XVIIIe siècle et
aujourd'hui.
Et aujourd'hui, c'est absolument ridicule. Enfin, ils n'ont plus du tout le même souci du raffinement, du détail. Tout va beaucoup plus vite. Ils regardent et finalement, c'est très très nivelé par rapport à ce que ça a pu être. C'est pour ça que ça n'est pas non plus créateur de beauté, créateur de raffinement, et que maintenant, si vous voulez, on arrive assez vite à un plafond au-delà duquel les gens, non pas par manque de moyens, mais par manque de raffinement, vraiment, ils vont pas au-delà. Ils s'intéressent pas aux objets qui les entourent.
Objets tout à fait admirables qu'on peut donc venir visiter dans votre galerie 25 Quai Anatole France, Nicolas Kugel. On n'est pas obligé d'acheter, bien que tout soit à vendre, hein. Et même assez cher. Est-ce que ça vous désespère pas un peu d'ailleurs de vous dire que tous ces objets, ces couverts, ces tabatières, ces services de toilette que vous allez vendre à des grands collectionneurs d'aujourd'hui, au fond, ils ne vont pas les utiliser. Ils vont les mettre derrière une vitrine.
Ah non, pas
vous pensez qu'ils vont les utiliser ?
Il y en a qui vont les utiliser, mais
comme
bien
on les
sûr,
utilisait non. Autrefois.
Évidemment que le style de vie fait que les gens ne mangent pas dans des écuelles en vermeil comme on le faisait autrefois. Je le regrette, mais il n'y a pas si longtemps on le faisait. Hein. C'est un déclin récent. Mais bon. Non, ça me désespère pas, parce que on regarde justement aujourd'hui la qualité, on regarde la couleur, on regarde l'objet d'art, et puis
il faudrait le toucher aussi, hein, c'est pas toujours possible,
bien sûr.
Parce que quand on le touche, on voit bien, c'est ça ce qui fait le travail du vermeil, et particulièrement celui de Strasbourg, c'est les ciselures, c'est extrêmement minutieux. On voit Alexandre à la bataille du granit, c'est prodigieux, et ça ne fait que 13 cm sur 25, et si on le touche, c'est extraordinaire.
Alors ça, c'est très important, parce que toucher un objet, on le comprend beaucoup mieux. C'est pour ça que les objets, à mon avis, doivent être collectionnés. C'est parce que en les ayant en main, on a leur température, leur poids, la profondeur. C'est le doigt caresse, et c'est une chose que il faut un savoir-faire, c'est-à-dire garder la sensibilité, l'œil du doigt, quoi. Vraiment savoir regarder avec les doigts.
La première exposition organisée par votre père sur le même thème, c'était en 1964. Il y a un certain nombre d'objets qui étaient déjà exposés en 1964, qui sont aujourd'hui exposés à la nouvelle galerie Kugel, celle du Quai Anatole France. Où est-ce qu'elles étaient pendant ces 50 ans ? Parce que c'est gigantesque, votre immeuble. Hein. J'invite tout le monde à y aller, à la fois pour les objets en vermeil, mais aussi pour découvrir ce que c'est qu'un grand antiquaire. C'est des étages entiers de meubles splendides qui paraissent avoir des prix inestimables dans tous les domaines. Et là, on se dit, mais attendez, ils doivent en avoir autant ailleurs, cachés, dans des entrepôts. Non, c'est pas le cas, il n'y a pas un stock énorme.
Non, le stock, on le renouvelle tout le temps, on achète, on vend. Il y a des choses qui restent, très peu de temps, des choses qui restent 20 ans, et je ne sais pas pourquoi. Et tout d'un coup, ils partent. En tous les cas, nous, on n'a pas un stock caché, ça n'est pas la partie émergée d'un iceberg, j'aimerais bien, mais de toute façon, ça n'est pas ça. C'est une transmission.
Une réaction, une grille d'acier, vous êtes devant le catalogue, ça vous impressionne beaucoup.
Oui, c'est absolument magnifique. J'étais fascinée par une cafetière piriforme que j'avais sous les yeux, donc en forme de poire. Hein, elle est tellement voluptueuse et érotique que je pense qu'elle plairait beaucoup à Eric Emmanuel Schmitt,
vous avez vu quoi?
Moi, quand je suis en face de ces objets, je me rends compte que je suis petit-fils d'artisan, puisque mon grand-père était joaillier sertisseur. Et en fait, je raisonne pas du tout comme vous, en riche par riche. J'ai toujours vu des objets absolument magnifiques à la maison, et mes grands-parents n'étaient pas riches du tout. Et ce que je regarde, c'est le travail.
Bien sûr.
Avec une admiration. Enfin, je pense pas à la richesse de ceux qui ont commandé l'objet ou qu'ils possèdent. Je pense au savoir-faire de celui qui l'a fait. aux heures patientes. Moi, mon grand-père travaillait avec un espèce de tablier en cuir qui était accroché à son atelier. Et donc, il sertissait des bijoux toute la journée. Et à la fin de la journée, il détachait son tablier et il récupérait la poussière d'or.
Bien sûr, oui.
Et il la mettait dans sa soupe.
Non, il mettait ça dans un petit tube en verre. Et puis, dans toute une vie, il a dû faire quelques lingots d'or avec la poussière d'or. Et quand il est mort, ma grand-mère a vécu de cette poussière d'or qui était la patience de mon grand-père.
Vermeilleux, une exposition qui a lieu à la Galerie Kugel dans l'hôtel Colo, 25 quai Anatole France. Si vous voulez voir ce que c'est que les plus grands antiquaires du monde, allez jeter un œil.
20h, 22h, Europe 1 Social Club.
Frédéric Taddeï. Ingrid Astier, vous publiez Petit éloge de la nuit. Le livre sort directement en poche chez Folio. C'est un abécédaire qui va de abîme à zoom. Vous expliquez que la nuit, l'esprit s'ouvre. Qui aime la liberté, l'accès à un moi plus sincère, cultive son penchant nocturne. Est-ce que ça veut dire que la nuit porte conseil? Vous me dites à un moment d'ailleurs que la nuit, c'est le laboratoire de notre pensée.
Oui, je trouvais que finalement on était beaucoup trop sage de jour. On est quand même dans une époque qui est tiède. Je pense qu'on est très souvent guetté par l'ennui dans les conversations de jour. Et il y avait un éveil nocturne qui m'intéressait. Donc c'est un peu contre l'esprit assoupi de jour qui me semble complètement aberrant.
Pour écrire ce livre, vous êtes promené avec le commando cabaret qui fait la tournée des cabarets, qui appartient à la brigade, aujourd'hui la brigade, comment on appelle ça ?
La mondaine.
Oui, mais c'est plus la mondaine.
Donc c'est la brigade de répression du proxénétisme.
Voilà, c'est le mot. Vous êtes promené avec la brigade fluviale sur la Seine, avec l'anti-gang. Et c'est justement la brigade mondaine d'ailleurs, la brigade cabaret plus exactement, qui vous dit qu'Internet a fait du mal à la nuit. Alors là, je me suis demandé pourquoi. Et un autre vous dit, tu enlèves l'alcool, il n'y a plus de nuit. La nuit ne brille pas. Alors pourquoi Internet aurait-il fait du mal à... Pourquoi est-ce que les gens sortiraient moins? La télévision, je veux bien, mais Internet...
Alors là, c'était une remarque très pratique de ce groupe des cabarets. C'est simple, c'est parce qu'avec Internet, il y a beaucoup plus de façons de se rencontrer de façon organisée, directe. Et donc les établissements nuit, ils ont beaucoup moins de pertinence parce qu'il y a cette logistique de la nuit. Et le simple fait de dire logistique de la nuit, on comprend que c'est beaucoup moins poétique déjà. Donc il y a vraiment une perte de cette poésie de la nuit.
Et quand il dit tu enlèves l'alcool, il n'y a plus de nuit, ça veut dire que véritablement on sort, alors comme ils disent, pour se déchirer aujourd'hui?
Mais ça, il suffit de se promener à 3-4 heures du matin, jusqu'à 5 heures du matin, derrière les Champs-Élysées, hein, pour comprendre vraiment le fondement de cette expression.
À la Scandinave, parce que en fait, on boit pour s'enivrer maintenant, ce qui n'était peut-être moins le cas autrefois.
Oui, ce qui fait qu'on a vraiment une vision apocalyptique de cette fête qui est censée être la nuit. C'est pas du tout cette nuit de paillettes, de rêverie, d'érotisme, de velours. C'est une nuit quand même qui est plus tournée vers la déchéance et la mise à mal de la sensibilité.
Une question que vous posez, peut-être que Eric Emmanuel Schmitt aura la réponse d'ailleurs, parce qu'il s'est beaucoup intéressé à la musique. Pourquoi les concerts sont-ils de nuit plutôt que de jour? C'est une question que vous posez, vous avez une réponse, Eric Emmanuel?
Mais je pense parce que les bruits... Je me suis jamais posé la question d'abord. Mais je pense peut-être que les bruits de la ville cessent déjà.
Les nuits sont très bruyantes, elles y consacrent tout un chapitre. À la campagne, c'est une hystérie, mais même en ville, on entend tout. La ville, le moindre bruit. Alors pourquoi est-ce que les concerts... Vous avez une explication, Ingrid Astier?
C'est ce que j'essaie de faire passer dans le livre. Je pense que déjà, la salle en elle-même, c'est vraiment une caméra obscura, d'une certaine façon. C'est une chambre obscure, donc quand on va à un concert, de la même façon que lorsqu'on va voir un film, on va à la rencontre d'un autre monde, d'un autre moi, et qui passe par le noir. Parce que le noir, justement, va libérer tout ce qui est de l'ordre du fantasme, de la rêverie, de la concentration. Finalement, de jour, on n'a pas ça. On est dans la dissipation, dans le gaspillage, exactement, dans l'éparpillement.
Surtout dans l'utile.
Voilà. Oui, c'est le contraire.
Le jour, c'est le règne de l'utile. Et
voilà, c'est la nuit.
Le soir, on se débarrasse enfin de l'utile.
C'est vraiment le monstre. Hein. C'est ce que disait Théophile Gautier. Tout ce qui est utile est laid. Hein. Car c'est l'expression d'un besoin. Et ceux des hommes sont mauvais. Donc, effectivement.
Non, il y a les arts décoratifs. Qui sont une transition.
Alors, dans votre abécédaire, Ingrid Astier, vous parlez de AC, on trouve chirurgie ou chocolat. AF, on trouve fleurs. Alors pourquoi tout à coup être sorti du strict registre de la nuit pour aller à la rencontre du chocolat, par exemple? Qu'est-ce que le chocolat fait dans cet éloge de la nuit?
Alors déjà, c'est parce que j'en mange beaucoup pour écrire, donc il fallait quand même lui rendre justice. Hein. C'est,
y a vous pas... auriez pu le remercier le jour où vous aurez un prix.
Il faut c'est bien, vrai, il aurait pu être dans les remerciements du livre. Mais, non, en fait, c'est très simple. Hein. C'est le chocolat, c'est l'infini du noir. C'est, pour moi, c'est pas seulement un goût et une texture, c'est aussi cette fascination qu'on peut avoir par... par l'opaque, par aimer l'opaque brillant. Donc, on est dans du soulage. C'est les vitraux de soulage, en fait, le chocolat.
Et la chirurgie.
Et la chirurgie, alors ça, c'était plus acrobatique. C'est qu'en fait, déjà, je suis passionnée par l'anatomie. Ça me semblait intéressant de voir que finalement, on vivait avec un parfait inconnu, qui est notre corps en trois dimensions, et qu'on avait on avait peu de rapport avec cette nuit du corps, donc ce corps intérieur, ce corps sombre, ce corps caverneux, qui en fait est révélé par la chirurgie. Donc le geste du chirurgien comme ça qui va déplier le corps, ouvrir le corps et ouvrir cette nuit intérieure, ça me semblait très intéressant de l'exposer au jour.
Alors, tant que j'y pense, Bruno Dumont, Petit Quinquin, j'ai l'impression que ça se passe tout le temps de jour. J'ai pas de souvenir de scène de nuit, est-ce que je me trompe ?
En fait, je ne tourne jamais la nuit.
Ah, c'est ça.
Voilà.
Donc pourquoi ?
Parce que la nuit, je dors. Non, parce que j'aime pas tourner la nuit, parce que j'aime pas l'éclairage de la nuit au cinéma, parce qu'on est obligé de mettre de la lumière, en fait. Donc, on a une lumière un éclairage un peu bizarre. Et en fait, ce que j'ai fait, en fait, il y a une nuit dans le deuxième épisode, et c'est une nuit américaine. Mais qui est une nuit numérique, parce que maintenant on les fait numériquement, et ça vous donne une nuit qui est assez belle, qui est plus exactement bleue. C'est-à-dire on voit encore clair, en fait. Et je trouve ça très très intéressant. Et pour répondre à la question qu'on se posait, je pense que c'est quand même un moment où on se désinhibe vraiment, parce que la lumière n'est plus là, en fait. Donc comme on rentre peut-être dans la partie obscure de nous-mêmes, donc du coup on boit, et si on boit de plus en plus, c'est peut-être que parce que la journée on est de plus en plus inhibé, et que c'est inversement proportionnel.
Et regardez la beauté de quand on ne veut pas se réveiller, en fait. Vous avez sûrement senti ça, c'est quand vous vous réveillez le matin, que vous êtes complètement drapé de votre rêve et que vous n'avez pas envie de relever le drap. Donc vous êtes éveillé, mais vous restez encore dans cet imaginaire de la nuit que vous ne voulez plus quitter. Il y a un désir d'habiter le rêve, finalement.
Ingrid Astier, Éloge de la nuit, c'est sorti directement aux poches dans la collection Folio. Je vous remercie tous les quatre. Éric-Emmanuel Schmitt, votre pièce Georges et Georges se joue au théâtre Rive Gauche. Petit Quinquin, c'est la mini-série de Bruno Dumont, c'est sur Arte jeudi prochain. Quant à l'exposition de Nicolas Kugel, Vermeilleux, elle est à la galerie Kugel, 25 quai Anatole France. On se retrouve juste après les infos avec Alain Duhamel. Alain Duhamel qui sort son histoire personnelle de la 5e République, c'est chez vous.
Social Club, Frédéric Taddeï.
Et pour une heure entière jusqu'à 22h, mon invité Alain Duhamel, c'est lui qui a animé le premier face-à-face entre les deux tours de la présidentielle en 1974, entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Le premier qui a interrogé Jean-Marie Le Pen à la télévision. C'est à Alain Duhamel que Nicolas Sarkozy a avoué un jour en direct qu'il ne pensait pas à l'Élysée seulement en se rasant. C'est pour dîner avec Alain Duhamel que Dominique Strauss-Kahn est sorti un jour d'une grosse Porsche noire. Il a été photographé et ça a été le commencement de ses ennuis. On a l'impression que vous êtes toujours là comme un diable dans la coulisse de cette 5e République, Alain Duhamel. Alors quand vous publiez une histoire personnelle de la 5e République, on se dit « Ah ça, ça va être intéressant ».
Attends, mieux.
Alain Duhamel, est-ce que vous avez été tenté de ne raconter que des anecdotes sur la coulisse ? Non.
Non, parce que j'ai un fond sérieux. Alors,
vous ne voulez pas revenir sur ce fond sérieux.
Alors, j'aime bien les anecdotes, comme tout le monde, puis c'est ce qui donne de la chair. Bon, donc, bien sûr, il y a des anecdotes, mais je voulais qu'il y ait aussi une part d'analyse, de compréhension, ne serait-ce que pour éclairer et donner, en réalité, leur place réelle aux anecdotes.
Alain Duhamel, en lisant cette histoire personnelle de la Ve République, on se demande évidemment une question qui a dû tarabuster énormément de téléspectateurs ou de vos lecteurs. Est-ce qu'il est de droite ou est-ce qu'il est de gauche? Et on s'aperçoit qu'à 15 ans, vous étiez un chaud partisan de Pierre Mendès France, qu'à 18 ans, quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 58, donc vous avez applaudi des deux mains et vous révélez que trône encore aujourd'hui au-dessus des autres dans votre panthéon personnel. Ce héros de gauche qui est Pierre Mendès France, et ce héros de la droite qui est le général de Gaulle. Alors, de gauche, de droite, des
alors,
deux.
D'abord, je dirais que, sans chercher à éviter le sujet, que la force de chacun de ces deux personnages, c'est qu'ils n'impressionnent pas seulement les gens de leur camp. C'est peut-être même leur particularité par rapport aux autres dirigeants de la 5e et a fortiori de la 4e République. Pierre Mendès France est un homme de gauche, pas d'extrême gauche, mais de gauche, mais en même temps, il est respecté à droite. Et le général de Gaulle est un homme de droite, mais c'est aussi l'homme de la nation tout entière.
Aujourd'hui, tout le monde l'adore.
Oui, mais même à l'époque, quand il est revenu en 58, il revenait pour créer un régime, pas pour mettre sur pied une faction. Bon, même si la faction existait par ailleurs. Alors, pour le reste, moi je vais vous dire, selon les fois, j'ai voté de façon différente parce que j'ai au fond deux critères au moment des grandes élections. Quel est le personnage, en général je les connais quand même assez bien.
Oui, on va voir pourquoi.
Quel est le personnage qui me paraît le mieux adapté à la fonction au moment donné?
Vous avez dû être souvent déçu.
Et j'étais souvent déçu, comme les Français. Mais en même temps, avant, j'avais mes critères. Je me disais X ou Y est quand même mieux en ce moment pour essayer d'être président de la République. Et c'était pas toujours des gens du même camp. Il y a peut-être une dominante, mais c'était pas toujours des gens du même camp. Je dirais, au-delà de ça, je réagis quand même beaucoup par sujet. Alors, il y a des sujets sur lesquels je me sens de droite.
L'économie.
Par exemple, l'économie en général, mais pas l'économie caricaturale. Mais par exemple, les 35 heures, j'ai jamais été pour les 35 heures. Moi, par tempérament, je suis personnellement plutôt 70 heures que 35. Bon, et puis, je suis assez réaliste. Je crois à la concurrence, à la compétition. Alors, je sais bien qu'il faut l'ordonner et l'humaniser. Mais mon tempérament est comme ça. Mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels je suis plus à gauche que ça, naturellement. Ça va de soi. C'est vrai en matière culturelle, ce qui est facile à dire en France, puisqu'en France, ce qui est culturel est quand même plutôt à gauche et qu'on veut tous être culturel, mais en matière sociale, je suis plutôt à gauche.
Alain Duhamel, vous avez très bien connu la totalité du personnel politique depuis 40 ans, même depuis 50 ans, on pourrait dire. Et on voit bien, en lisant votre histoire personnelle, j'insiste sur le mot personnel de la Ve République, que vous avez passé votre vie à déjeuner, à dîner, parfois même pendant l'été, à recevoir la visite de François Mitterrand, impromptu, qui vient dans votre belle famille vous entretenir de choses et d'autres. Vous déjeuniez avec Georges Marchais, Jean-Pierre Elkabbach, à la grande époque, ou de votre trio sur la télévision, quand Marchais, on en reparlera, faisait des numéros extraordinaires, vous déjeuniez avec lui. Aujourd'hui, quand on sait ça, on parle de connivence. Est-ce que vous auriez pu faire ce métier sans déjeuner, sans dîner?
Je connais bien le thème, évidemment, vous vous en doutez. je trouve que c'est complètement absurde. D'abord, il faut avoir à l'esprit que pendant la première moitié de la Ve République, les journalistes, qui étaient aussi dépréciés qu'aujourd'hui, le grand jeu était de leur mettre une étiquette non même pas partisane, gauche ou droite, mais de tel ou tel parti, voire de telle ou telle faction, voire de tel ou tel homme. Bon, Dieu merci, maintenant, c'est l'inverse. Alors, comme c'est l'inverse et qu'on met beaucoup moins d'étiquettes, du coup, on dit connivence, puisqu'ils se voient et que, par la force des choses, ils se croisent souvent et qu'effectivement, ils déjeunent ensemble. Dîner, c'est déjà des choix personnels. Je dînais pas avec n'importe qui.
Vous dînez rarement, d'ailleurs, vous couchez très tôt.
Exactement, je me couche trop tôt, vous avez tout à fait raison. Mais l'idée selon laquelle on puisse parler de la politique, surtout dans une vie politique aussi personnalisée qu'elle l'est aujourd'hui avec l'audiovisuel, les réseaux sociaux, l'information continue, l'idée qu'on puisse parler de politique sans connaître ces personnages et ces acteurs, c'est franchement ridicule. Je veux dire, quand on lit un livre, on s'intéresse aussi souvent à l'auteur. Pas exclusivement, mais ça fait partie des choses. Si on parle de coureurs automobiles, on ne s'intéresse pas qu'au modèle automobile, on s'intéresse aussi aux champions automobiles. Je veux dire, la réalité, c'est fait bien sûr de rapports de forces sociaux, de lois économiques, mais c'est fait aussi de chair humaine. Et donc, vouloir ne pas les connaître, c'est à mon avis complètement absurde. Par ailleurs, si on veut essayer ce que je me suis forcé de faire en général, avec des résultats qui ont varié, bien entendu. Mais si on veut essayer de devancer un peu l'événement, d'anticiper un peu les choses, de pressentir ce qui va arriver, et d'être capable à ce moment-là de réagir à peut-être un poil plus vite que d'autres. Bon, comment est-ce qu'on peut le savoir ? Je vais pas aller fouiller dans les poubelles de Bercy pour savoir si je tombe sur une note clandestine.
C'est en ce qu'on appelle du journalisme d'investigation.
Oui,
ce que vous ne pratiquez pas.
Ça n'est pas moi. Et d'ailleurs, moi, je suis peut-être un des derniers en France, mais je respecte le off. Si on me dit « je vous dis ça », mais c'est pour vous, ça n'est pas pour l'exploitation tout de suite.
François Mitterrand vous disait très souvent, avec qui vous aviez des rapports d'amitié.
Mais d'autres, bien sûr. Mais je respectais ça. Mais en revanche, ça me permettait de comprendre, peut-être avant beaucoup, ce qui allait se passer et pourquoi ça se passait.
La grande question que se posent les Français, c'est quand on est ami, même entre guillemets, comme vous avez pu l'être avec François Mitterrand, que vous avez bien connu avant qu'il devienne président, puis pendant qu'il était président, c'est est-ce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas ? Est-ce qu'on les défend ? Est-ce qu'on les protège ? Quand on lit votre livre et qu'on suit toutes les analyses qui figurent dedans, on sent bien que vous avez beau avoir de l'amitié, voire de l'admiration, ça ne vous empêche pas d'être très critique. Est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce que cette force de caractère, on va dire, est très répandue ?
Là, je crois que chacun a ses propres critères. Alors, il y en a qui n'ont pas de critères du tout, ou il y en a qui ont des critères très laxistes. Moi, j'ai des critères personnels assez rigides. Pour prendre l'exemple de François Mitterrand, mais on pourrait en prendre 20. Disons que c'est le plus illustre. Pour prendre l'exemple de François Mitterrand, on avait une grande proximité intellectuelle et culturelle. On était capable de parler quelquefois des heures de littérature, d'histoire, de politique. Enfin, on s'intéressait aux mêmes choses. Mais politiquement, j'étais très loin d'être toujours d'accord avec lui.
Vous aviez même une réputation d'être giscardien.
Et bien sûr, mais que j'assumais. Et enfin, surtout 74-76, quand il a fait bouger la société. Ça me plaisait beaucoup. Et puis sur l'Europe, bien sûr. Et en ce qui concerne la politique économique, en 82. Donc un an après sa victoire, j'ai sorti un livre qui s'appelait « La République de Monsieur Mitterrand » dans lequel j'expliquais « De toute façon, cette politique économique ne peut pas marcher, il va bien falloir qu'on en change ». Et il a commencé à le faire l'année d'après et complètement l'année suivante. Mais donc, vous voyez, c'est pour vous dire, on peut parfaitement avoir de très bonnes relations. C'est pas, évidemment, tout le monde n'a pas de très bonnes relations avec tout le monde, mais on peut en avoir et en même temps être complètement indépendant politiquement, mais complètement.
On passe toute une heure avec Alain Duhamel et son histoire personnelle de la Ve République qui vient de paraître chez Plon.
20h, 22h,
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Alain Duhamel, en lisant cette histoire personnelle de la Ve République que vous signez aux éditions Plon, on s'aperçoit que c'est vous qui avez accompagné les premiers pas vers cette démocratie d'opinion qui concurrence aujourd'hui dangereusement, disent certains, la démocratie représentative. En effet, c'est vous, en 1965, au moment des présidentielles, Europe 1, Europe numéro 1 à l'époque, organise la première opération d'estimation des votes avant sortie des urnes, donc avec l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique. Et c'est vous qui étiez à l'époque le spécialiste des sondages au journal Le Monde. C'est vous également en mai 68 qui serez le premier à dire dans Le Monde que l'opinion des Français est en train de basculer. C'était d'abord favorable au soulèvement étudiant, revendication sociale. Puis tout à coup, ils en ont marre de la chienlit, du bordel. Et ça, vous le dites dans Le Monde. Et d'ailleurs, on vous en voudra beaucoup de l'avoir dit en plein mois de mai 68. Donc voilà, au départ, l'homme des sondages, c'est Alain Duhamel. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez ?
Je ne regrette pas parce que les sondages, c'est forcément un instrument de connaissance. En même temps, je ne les sacralise pas. D'abord parce que les sondages se trompent, quelquefois.
Pas à l'époque.
Surtout, ils se trompent moins sur les problèmes de société que sur les prédictions électorales en général. Mais c'est un instrument de connaissance formidable. Et puis, c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu en terre inconnue, que c'était un peu une aventure, que c'était intéressant.
La première fois que le fait Europe 1, Europe numéro 1 en 1965, vous dites, c'est la première fois en France et en Europe.
Mais c'était
très risqué.
C'était la première fois et on a subi énormément de pression.
De la part du pouvoir gaulliste.
De la part de l'Élysée, qui nous disait, l'évolution des intentions de vote a fait que le général de Gaulle, qui au départ était censé en 1965 passer largement dès le premier tour, s'est vu mettre en ballotage. Et à la limite, c'était de notre faute, puisque c'est nous qui le disions, c'était de notre faute.
C'est vous qui l'aviez prévu, c'est les sondages.
C'est vrai qu'il a fallu que certains aient du caractère dans cette affaire. Et puis moi, plus modestement, j'avais écrit une série de deux gros papiers dans Le Monde avant l'élection, mais enfin tout près, trois semaines avant, je crois, dans lequel je disais, d'après les résultats des sondages, la classe ouvrière est en train d'abandonner le général de Gaulle. Or, toute l'idéologie, mais tout l'idéal aussi du général de Gaulle, c'était de représenter la France entière. La France, comme on dit aujourd'hui, la France d'en bas autant que la France d'en haut. Et alors là, on m'a dit carrément à l'Élysée, écoutez, vous êtes un jeune homme bien élevé, vous faites des études correctes, vous avez une carrière devant vous, etc. Rendez-vous compte que vous êtes déjà en train, à l'époque, on disait, de vous mettre une étiquette dans le dos et que, franchement, vous pourriez faire mieux que ça.
Et Europe numéro 1, à l'époque, était une radio périphérique, donc était, ils avaient l'œil dessus.
Ah, hein, bah non seulement ils avaient l'œil dessus, mais en 68, ils ont failli carrément couper l'antenne. Hein.
Alors, vous avez animé, vous débutez à 30 ans à la télévision, hein, vous animez la, à partir de 69-70, la première véritable émission politique française, au sens où Armes égales, c'était son titre, pour la première fois.
Avec Michel Bassy.
Avec Michel Bassy. Pour la première fois, et c'était nouveau, il y avait un duel entre deux hommes politiques opposés.
Il y avait automatiquement quelqu'un de l'opposition.
Ce qui ne se voyait pas du temps de Général de Gaulle.
Ah, bah oui, puis qui était même considéré quelquefois comme au-delà de l'admissible. Moi, je me rappelle comme. Prendre un exemple, quand on a invité à participer à Armes égales Krivine, qui à l'époque était le leader des trotskistes, ça a été considéré comme si on installait Lénine à l'Élysée. Enfin, on nous a dit que vous êtes complètement inconscient.
Là, c'était sous Georges Pompidou.
Oui, hein, vous êtes complètement inconscient, vous êtes absolument fou. Et on a eu des histoires. La réalité, c'est qu'on a eu des histoires sans arrêt. Et qu'en fait, l'émission s'est arrêtée en 72, quand, pour la première fois, un représentant éminent de la majorité de l'époque, brillantissime même, qui était le président Edgar Faure, qui n'était pas n'importe qui, s'est fait mettre en pièces par Gaston Defferre, qui à l'époque était le président du groupe socialiste à l'Assemblée.
Qui avait été le candidat à l'élection présidentielle de 69.
Et le maire de Marseille. Alors, là, on nous a dit carrément, écoutez, c'est pas du jeu. Si c'est la gauche qui gagne, c'est pas du jeu. Et donc, l'émission a été arrêtée. Ils nous en ont proposé une autre à la place qui n'en valait pas le dixième, évidemment.
Mais ça fait rien, vous en aurez d'autres par la suite, on va y venir. Mais pour rester sur Armes égales, vous le décrivez comme votre pire souvenir. C'est ce fameux « Messieurs les censeurs, bonsoir » qu'a proféré Maurice Clavel avant de quitter le studio en 1971. Et c'est à vous qu'il dit ça. Hein.
Mais oui, parce que Michel Bassy était malade ce jour-là. Il venait d'être opéré de l'appendicite.
Donc vous êtes tout seul.
Enfin, je suis avec Campana, mais enfin bon, j'étais assez seul.
Alors le censeur, c'était vous ou pas ?
Pas du tout. Mais moi, quand j'ai découvert ça, en réalité, vous savez que c'est un mot qui avait été coupé dans un petit film.
Il faut savoir que les invités d'Armes égales avaient le droit de réaliser un film.
De
chacun.
Faire réaliser, comme ils le voulaient, avec les mêmes moyens, évidemment.
C'était drôle.
Un film d'un quart d'heure.
On l'imagine plus aujourd'hui, ça.
Qui, quelquefois, était très bien. Quelquefois, c'était assommant, mais quelquefois, c'était très bien. Et celui de Clavel, honnêtement, était très réussi. Et simplement, dans ce film, il disait de Georges Pompidou, le président en exercice, il disait qu'il avait de l'aversion pour la résistance. Ce qui était faux, évidemment. Mais Clavel était un polémiste. Ça a été coupé. Ça n'a pas été coupé par moi, ça n'a pas été coupé par Michel Bassy, et je n'ai jamais su qui avait coupé. Mais ce que je savais, parce que ça c'était la réalité de l'époque, c'est qu'on était surveillés en permanence, c'est qu'on ne bougeait pas un petit doigt sans que tout le monde le sache. Le résultat, c'est que c'est sur moi que c'est retombé. Et il a fallu que je passe une émission de 2 heures, c'est long 2 heures, à la plus grande heure d'écoute, alors que toute la France était là. Rendez-vous compte que ce jour-là, on a d'ailleurs battu tous nos records d'écoute, parce que les gens se passionnaient pour le sujet qui était les mœurs après mai 68, on a eu 40% de taux d'écoute, vous imaginez ça.
Alors qu'il n'y avait que Jean Royer dans le studio.
Bon. Et puis moi en face, et comme il fallait que je meuble, et puis Pierre Desgroupes m'a téléphoné tous les quarts d'heure en disant « Tiens, bon, j'arrive du coup, il fallait que je lui dise « Mais qu'est-ce que vous auriez dit si vous avez dit ça ?» Alors il me dit « Ah, j'aurais dit, puis il ajoutait, puis j'aurais aimé dire, et j'aurais d'ailleurs ajouté. » Enfin, c'est un souvenir. Pendant, je sais pas moi, peut-être 10 ans, quand je lisais dans un roman le mot « aversion », je sautais sur ma chaise.
Et le mot censeur, vous êtes rétigné.
Non, parce que censeur, je savais très bien que c'était pas moi. D'ailleurs, le lendemain, j'avais fait un papier dans Le Monde qui avait été très. Bon, ils avaient publié ça à la une.
Oui, parce que vous l'aviez annoncé en plus à Maurice Clavel. Ils le savaient avant.
Je l'avais annoncé par écrit. J'étais allé chez lui pour le lui dire et je lui avais dit on fait ce que vous voulez. Enfin, j'ai lui et moi.
On remet le mot.
Et dans mon esprit, c'était lui qui allait dire ça et en disant je mets au défi celui qui l'avait. Moi, c'est ce que je croyais qu'il ferait ça. Je mets au défi celui qui l'a coupé de se dénoncer, d'oser se dénoncer, puis ensuite on aurait fait l'émission. Bon, mais non, c'était un homme de théâtre, hein, aussi Clavel. Et en plus, là, il était à la fois l'auteur et le principal personnage. Il n'allait pas laisser passer ça, quand même.
20h, 22h, Europe 1 Social Club.
Frédéric Taddeï.
Alain Duhamel, en lisant votre histoire personnelle de la Ve République qui vient de paraître chez Plon, évidemment, je me suis arrêté sur le premier face-à-face entre deux tours de la présidentielle. C'était en 1974. C'est votre idée avec Michel Bassy, oui, de vous inspirer du fameux face-à-face entre Kennedy et Nixon. Vous allez l'animer avec Jacqueline Baudrier. Il y aura 25 millions de téléspectateurs. S'il en est un de ces débats qui vont devenir systématiques ou quasiment systématiques, qui a eu de l'influence sur le vote, c'est celui-là, dites-vous, et c'est sans doute le seul, puisque jamais ça n'a été aussi serré qu'entre Giscard, ouais, et Mitterrand cette année-là, en 1974. Mais vous ne faites aucune allusion à ce qui est devenu depuis très célèbre concernant ce débat, c'est l'allusion que Valéry Giscard d'Estaing a fait à François Mitterrand à Clermont-Ferrand. Vous savez que de vite, on en a beaucoup parlé de cette allusion. Alors, est-ce que c'est parce qu'à l'époque, vous n'y avez pas du tout fait attention? Est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup de mal, j'ai l'impression, à parler de la vie privée des hommes politiques?
Alors, d'abord, ça c'est absolument exact. Je déteste parler de la vie privée des hommes politiques.
Il n'y a pratiquement aucune allusion dans tout le livre.
Comme d'ailleurs la vie privée de chacun. Je trouve que la vie privée de chacun est à chacun. En 1974, il y a eu cette allusion de Valéry Giscard d'Estaing à Clermont-Ferrand.
Clermont-Ferrand, c'était la ville de...
C'était
de la...
en réalité la ville de Madame Pinjot.
De la mère de Mazarine.
Mais moi, j'ignorais toute cette histoire-là. Et ça m'est passé vraiment au-dessus de la tête. Je me suis dit, il lui parle de Clermont-Ferrand parce qu'il est lui-même de Clermont-Ferrand. Enfin bon, j'ai rien compris, évidemment. Et en ce qui concerne les affaires récentes, bon, le fait est que je ne me précipitais pas pour connaître le dernier chuchotement sur X ou Y, et que, par exemple, ça m'énervait énormément quand Ségolène Royal mettait en scène une espèce de démocratie d'opinion psychédélique. Mais en revanche, sa vie privée, c'était sa vie privée. Et je ne doutais pas qu'elle soit parfaitement honorable. En tout cas, j'étais sûr d'une chose, c'est qu'elle lui appartenait à elle et pas à moi. Et c'est même chose pour Nicolas Sarkozy. Et alors, d'une certaine manière, je tombe toujours des nues dans ces cas-là, mais je ne le regrette pas. Moi, je considère que je suis un éditorialiste politique qui éditorialise sur la politique, pas sur la chambre à coucher. Ça m'intéresse de les voir à la télévision, ça m'intéresse de les écouter, de les rencontrer, de parler avec eux, de savoir ce qu'ils font, de juger ce qu'ils font, pas de savoir s'ils ont une petite amie, deux petites amies, trois petits amis. C'est leur problème, ça. Évidemment, en condition qu'il ne faut pas que ce soit un représentant de ce qui a remplacé le KGB. Bon, c'est pas fait pour les secrets de la défense nationale. Pour le reste, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, et de préférence que ça leur permette d'être plus équilibrés.
Mais néanmoins, pour vous, Alain Duhamel, en tant que fin analyste de la vie politique, parfois il vous manque des cartes si vous refusez de regarder.
Il en manque à tout le monde.
Il y a un livre que vous avez écrit qui est paru en janvier 2006, dans lequel Ségolène Royal ne figurait pas sur votre liste.
Ah, mais ça c'était délibéré.
Oui, on va y venir. Ouais. C'est ma question justement. Elle figurait pas sur votre liste des prétendants socialistes à l'élection présidentielle. On vous a beaucoup moqué par la suite, on a dit, ah ben voilà,
on a essayé,
Duhamel.
On a essayé.
et vu que elle se retrouvait être la candidate du parti, dans le livre, vous reconnaissez que vous l'avez délibérément écartée. Néanmoins, quand on lit par exemple Valérie Trierweiler aujourd'hui, on peut penser, si elle dit la vérité, qu'au fond, Ségolène Royal ne s'est présentée que pour embêter François Hollande et que s'il avait accepté de revenir avec elle, encore une fois, c'est ce qu'elle a l'air de dire. Elle se serait retirée, ce serait lui, comme vous le pensiez, qui allait se présenter.
Je vous dirais d'abord que le livre de Valérie Trierweiler n'est pas exactement ma Bible. Hein, pour moi, ça n'est ni l'Ancien ni le Nouveau Testament. Pour le reste, c'est possible que ça joue un rôle, c'est vraisemblable que ça ait joué un rôle, mais la question n'était pas de savoir pourquoi l'un se présentait et pourquoi pas l'autre. La question était de savoir qu'est-ce que l'un veut faire et qu'est-ce que l'autre veut faire, quels sont leurs moyens, quelles sont leurs chances, quels sont leurs talents, quelles sont leurs compétences. Et Ségolène Royal, j'ai jamais sous-estimé son talent. Je pense une femme de grand talent et je pense qu'il y a certaines choses qu'elle fait très bien. J'ai toujours pensé, par exemple, d'ailleurs je l'ai écrit, hein, j'ai toujours pensé qu'elle ferait une excellente ministre de l'Éducation. Bon, pensez toujours, et je le pense tout à fait, qu'elle n'avait pas du tout le genre de qualité qu'il faut pour être président. De qualité, je dirais même de défaut. Mais vous savez, d'abord, on peut se tromper. Et ensuite, il arrive que je pense que X ou Y avait ses qualités, puis qu'à l'expérience, il ne les ait pas.
Et puis, en plus, ce qui vous a stupéfié du fait qu'elle soit devenue, par la suite, la candidate du président du Parti Socialiste, c'est que vous ne pensiez pas que la démocratie d'opinion, que vous redoutez, même si vous en avez accompagné les premiers pas, comme je le disais tout à l'heure, en étant le premier spécialiste des sondages, vous ne pensiez pas que la démocratie d'opinion l'emporterait au Parti Socialiste.
Voilà, je pensais que le Parti Socialiste, d'ailleurs, c'était son histoire et sa culture, était un parti rationaliste, était un parti peut-être trop conceptuel d'ailleurs, était un parti qui se voulait rigoureux, pour moi, c'est, je veux dire, l'archétype, c'est Lionel Jospin. Bon, l'idée que ça puisse être une forme d'intuition, d'ailleurs, qui quelquefois tapait tout à fait juste, hein, de la part de Ségolène Royal, mais sans la moindre armature idéologique et quelquefois sans la moindre cohérence, et avec certaines fois des glissements absolument prodigieux et des contradictions formidables, pour moi, c'était le contraire de la culture socialiste. La culture socialiste, je la trouvais même un peu ennuyeuse à force d'être trop positiviste. Bon, elle, c'était psychédélique.
Est-ce que, à ce moment-là, vous n'êtes pas dit « Merde, je suis un petit peu dépassé, là, peut-être, au fond. J'ai connu l'âge d'or de la politique sous la Ve République. » On y reviendra, hein, vous l'expliquez bien. À quel moment, l'heure de vérité, avec la cohabitation, etc. Ça a été l'âge d'or. Jamais les Français sont autant intéressés à la politique. Et là, quand vous voyez les militants socialistes voter pour que Ségolène Royal soit candidate, est-ce que vous n'êtes pas dit « Bah là, peut-être que j'y comprends plus rien. »
Non, je ne me suis pas dit ça parce que j'ai bien compris que la raison majeure pour laquelle ça n'était pas François Hollande qui était le candidat, alors que dans le premier secrétaire, naturellement, ça aurait dû être lui, ça n'était pas du tout le personnage de Ségolène Royal, c'était le fait qu'il s'était fait battre par l'électorat socialiste à propos de la Constitution européenne. C'était ça la vraie raison. Et comme moi j'étais pour la Constitution européenne, comme lui, bah évidemment j'avais une sympathie particulière. Et donc c'était au fond un peu mon candidat.
Mais alors justement, aujourd'hui où votre candidat de l'époque, François Hollande, est devenu le président de la République et qu'il est si discrédité, qu'il est tombé au plus bas, jamais un président n'a été aussi peu populaire, n'a été aussi contesté. Et vous vous dites au fond, le bon candidat de l'époque, le plus raisonnable, si vous demandez aux gens aujourd'hui, vous diront que c'était pas raisonnable
du tout. Mais vous avez tout à fait raison, c'est évident qu'entre ce qu'on pense d'un candidat et qu'ensuite ce qu'on évalue d'un président, il y a très souvent des grandes différences. Vous savez, Jacques Chirac s'est fait élire comme candidat social. Bon, et puis ensuite, il a fait exactement le contraire 6 mois après. Donc, ce n'est pas la seule fois que ça existe dans l'histoire. François Mitterrand s'est fait élire comme un rêveur romantique, et puis ensuite, il a bien obligé d'être un réaliste comme tout le monde. En soi, ça n'est pas du tout une exception. Ce qui est exceptionnel, en revanche, c'est le désamour vis-à-vis de François Hollande, dont je pense qu'il est d'ailleurs excessif, qu'il a même quelque chose d'un peu pathologique et que ça reflète non seulement ses insuffisances, qui sont réelles, et ses faiblesses, qui existent, mais aussi celles des Français. Je pense que en rejetant François Hollande comme ils le font, les Français, qu'ils en aient conscience ou pas, se rejettent un peu eux-mêmes et rejettent la France telle qu'elle est. Et qu'au fond, à travers François Hollande, c'est l'incapacité de la France à se sortir de cette mauvaise passe, dans laquelle, par la force des choses, il porte une part de responsabilité. Ça, je ne dis pas le contraire. Moi, j'ai apprécié sa campagne dans les primaires, là où il disait ce que lui pensait. J'ai beaucoup moins apprécié, contrairement à tout le reste de la France, sa campagne quand il était le candidat investi et ses grands numéros au Bourget, parce que je savais que ça n'était pas crédible. Et ça je le savais pour le coup. Ensuite, j'ai bien vu qu'il lui fallait 2 ans pour sortir de la mauvaise situation dans laquelle il s'était mis avec ce discours et cette campagne finale. Bon, et au fond, il redevient progressivement ce qu'il est au fond de lui-même, c'est-à-dire un social-libéral. Depuis quelques mois, ça n'est même pas encore vraiment entré en application. D'abord, je crois que c'est trop tard pour lui, de ce fait. Mais je pense qu'en 2 ans et demi qui restent, ça ne suffira pas pour inverser les choses. D'autant plus que les mesures qu'il prend, qui sont souvent bien meilleures qu'il y a 2 ans, mais mettent au moins 2 ou 3 ans à porter vraiment des effets, et que malheureusement la baisse du chômage, c'est ce qui arrive en dernier. Bon, mais derrière ça, il y a aussi chez moi, je reconnais une part de mystère sur la grande différence entre François Hollande en privé, qui est très intelligent, qui est extrêmement compétent, qui a des idées qu'on conteste, hein, moi d'ailleurs j'en conteste pas mal, mais qui sont des idées qui tiennent le coup, qui sont sérieuses, qui reposent sur des connaissances, des dossiers, des expériences, et le François Hollande en public qui se dissout littéralement. Pourquoi est-ce qu'il est soluble dans l'opinion publique, dans la sphère publique, alors que c'est quelqu'un qui, franchement, en privé, est réellement passionnant. Et même quelquefois, on se dit, ah, s'il était président, comme ça serait bien. Bon, puis ensuite, on se dit, zut, c'est lui le président, pourquoi est-ce qu'on s'en aperçoit pas? Il y a quelque chose de... Vous savez, les personnages sont quand même compliqués, et les hommes publics autant que les autres. Puis comment est-ce qu'il peut y avoir ce décalage entre sa résolution, qui est très grande, grande sur la scène internationale et son poids, que les Français par exemple ignorent totalement, dont ils se moquent et qu'ils ne veulent pas voir d'ailleurs, qui est réel sur le plan international, et puis le fait qu'en France on a l'impression que tout ce qui touche rate. C'est quand même embêtant, mais c'est aussi assez mystérieux. Et je suis persuadé.
La même chose pour Nicolas Sarkozy, dont vous rappelez que, d'après vous, il a sauvé les comptes en banque des Français.
Ah bah oui.
Au moment de la... et aucun Français ne s'en est ni aperçu,
absolument.
ni ne l'en a félicité.
Exactement. Et d'ailleurs, ce que je dis à propos de Nicolas Sarkozy, c'est que, en réalité, il a été très bon dans la gestion des crises, qui étaient des crises extraordinairement dangereuses, qui pouvaient tourner en catastrophe. Le système bancaire pouvait sauter. Hein. On n'a pas été loin du tout. Et il se trouve que ce qu'il a fait pour gérer les crises, il n'y a vraiment que les spécialistes qui puissent mesurer ce que ça représentait comme qualité, comme calme de sa part. Vous entendez, Nicolas Sarkozy, calme. Bon, en revanche, sa gestion quotidienne était erratique et quelquefois vulgaire, il faut dire les choses comme elles sont. Bon, et le résultat de tout ça, c'est que ce qui faisait de bien était invisible et ce qui faisait de mal était spectaculaire. Moyennant quoi, on a forcément une idée de lui qui est caricaturale à l'arrivée.
Europe 1 Social Club.
20h, 22h. Frédéric Taddeï.
Alain Duhamel, poursuivons avec cette histoire personnelle de la Ve République que vous venez de publier chez Plon. Il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de coulisses aussi. On a l'impression, mais restons un peu sur ces candidats, ces hommes politiques tels que on les voit nous, les Français, tels que vous les voyez vous, forcément différemment, puisque vous les fréquentez, vous les côtoyez, vous déjeunez, vous dînez avec, ils vous appellent au téléphone. Valéry Giscard d'Estaing.
Je dîne quand je les estime. Je déjeune quand j'en ai besoin. Nuance.
Ça, ils vont le savoir maintenant que vous l'avez
absolument.
Dit.
Absolument. Bon, je pense qu'ils le comprennent.
Ça commence avec Valéry Giscard d'Estaing qui prend son téléphone, qui appelle les journalistes. Maintenant, pratiquement tous le font. Quand on vous lit, on se dit, au fond, entre Mitterrand et Rocard, vous auriez peut-être préféré Michel Rocard. Vous vous seriez dit, tiens, après tout, il était plus intéressant. En tant, il avait un programme économique, en tout cas bien.
Plus sérieux.
Plus sérieux. Raymond Barre, vous le trouvez meilleur que Chirac et Mitterrand, hein, à l'époque.
Oui. Oui, oui.
En 95, Balladur, vous le trouvez bien meilleur que Chirac. En 2002, Jospin, bien meilleur que Chirac. Le meilleur en campagne n'est pas forcément le meilleur en pouvoir.
Je dirais que c'est même souvent malheureusement l'inverse. C'est-à-dire que les qualités et les défauts d'un candidat sont l'inverse, même c'est homothétique par rapport aux qualités et aux défauts du président. Ce qui fait que très souvent, ceux qui auraient fait les mauvais présidents ont été battus, les meilleurs présidents ont été battus, et que ceux qui ont fait les meilleurs candidats n'ont pas fait les meilleurs présidents.
Vous devez trouver la démocratie bien mal faite.
Je trouve la démocratie imparfaite, mais simplement, de toute façon, il n'y a pas d'alternative à la démocratie. En tout cas, pas dans mon esprit.
Vous dites que jamais la cohabitation entre Mitterrand à l'Élysée à l'époque et Rocard à Matignon, jamais l'équipe d'un Premier ministre n'a dit aussi ouvertement autant de mal d'un chef de l'État et jamais un président n'a tenu aussi constamment des propos aussi sévères à l'encontre de son chef de gouvernement.
Il faut dire que là, il y a vraiment eu 3 ans absolument extravagants. Chez Rocard, on regardait Mitterrand comme le comble de l'immoralité, comme quelqu'un sans parole, sans connaissance, comme un opportuniste absolu. Alors il reconnaissait qu'il avait une certaine dimension intellectuelle, mais il le détestait. Mais Mitterrand me faisait des scènes quelquefois parce que j'avais fait un papier favorable à une initiative de Michel Rocard. En me disant, mais enfin, qu'est-ce que vous lui trouvez? Qu'est-ce qu'il a de plus? Et puis vous êtes assommant avec votre économisme perpétuel, etc. Je lui disais, excusez-moi, monsieur le président, il me semble que c'est vous qui l'avez nommé et pas moi. Et il répondait, oui, ça c'est facile de dire ça. Mais quand est-ce que vous direz, comme moi, qu'il n'est pas à sa place à Matignon?
Et jamais, vous n'aviez vu ça avant et jamais après?
Ah non, à ce point-là, non. À ce point-là, non. Non, j'ai vu des gens qui se détestaient. Mais à ce point, non.
Entre le RPR de Jacques Chirac naissant et Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, alors il n'était plus son Premier ministre. Néanmoins, ça devait être terrible quand même.
Ça a été une période très agressive. C'est le moment où, je crois, Jacques Chirac était le plus dur de sa vie. Or, Jacques Chirac, il a des défauts comme président, mais c'est un combattant exceptionnel. Et sans foi ni loi d'ailleurs quand il combat, mais exceptionnel. Avec une agressivité, avec une inventivité, avec inlassable, absolument inlassable. Et il inventait tous les jours quelque chose contre Giscard. Et bon, c'était... Mais en même temps, Giscard pouvait continuer à présider, hein, ça ne changeait rien.
Rarement, dites-vous, les relations entre journalistes et hommes politiques ont été aussi tendues que sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. On se dit, ah bon, encore plus tendues que sous celui, sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Parce que dans les deux cas, tel que vous le racontez dans votre histoire, ça commence par de l'entente, de la séduction. Les journalistes aiment Valéry Giscard d'Estaing au départ, comme ils aimeront, ou comme ils aimaient Nicolas Sarkozy. Et puis après, ça tourne au vinaigre.
Il y a des parallèles à faire, effectivement. Je dirais que sous Valéry Giscard d'Estaing, et avec la complicité de Jacques Chirac, d'abord, c'était l'époque, comme je vous le disais tout à l'heure, où on essayait d'embrigader les gens, pas simplement de les séduire. Aujourd'hui, on essaye de les séduire. À l'époque, on essayait de les embrigader, de dire « vous êtes de mon clan ». Bon, alors ça crée des relations qui sont contre nature, dans lesquelles moi j'ai toujours refusé de auxquelles j'ai toujours refusé de céder personnellement.
Néanmoins, bon, vous êtes toujours taxé de...
Oh, écoutez, sur le moment, oui, les deux premières années sûrement. Bon, à la fin, un peu aussi, mais d'une autre manière. D'ailleurs, j'avais publié un livre sur la République giscardienne en 80 où je disais ce que je trouvais très bien et ce que je trouvais moins bien. Non, et puis, non, j'ai surmonté ça assez vite.
Oui, mais vous le dites vous-même, étant donné que les patrons...
Mais j'ai eu un coup de cœur pour Giscard. Hein,
non, c'est
pas
ce que je voulais dire,
ça.
Mais c'est que dès l'instant où les patrons étaient effectivement giscardiens, ceux qui interviewaient Giscard à la télévision étaient immédiatement taxés de giscardisme.
Oui, ce qui ne voulait pas forcément dire qu'il l'était, et ce qui était compliqué à l'époque, c'était donc d'abord, on voulait mettre des étiquettes à tout le monde et embrigader tout le monde, des deux côtés. Hein. Et ensuite, parce que ça se jouait quand même essentiellement dans l'audiovisuel public, qui était dans la dépendance de l'exécutif. Et c'est là qu'il y avait en réalité les plus fortes tensions, beaucoup plus que dans la presse écrite. Ça a été compliqué, d'autant plus compliqué que le giscardisme en matière d'information était double. D'un côté, il innovait, il diversifiait, on créait des chaînes, on donnait de l'autonomie, et de l'autre, on voulait influencer. C'était une machine contradictoire. Avec Nicolas Sarkozy, ça a été complètement différent. Là, c'était l'ensemble de la presse qui a été... quand il était candidat, quand il était président du RPR ou de l'UMP, quand il était ministre des Finances ou de l'Intérieur, était bluffé, emballé, enthousiaste, fasciné. Il avait conquis tout le monde. Dès qu'il a été président, c'était fini. Et ceux qui l'adulaient l'ont haï, réellement, détesté. Et à mon avis, c'est un de ces handicaps qui existe toujours. Il a eu à un moment la presse derrière lui à 90%. Et aujourd'hui, je dirais que c'est l'inverse. Il a la presse contre lui à 90%. Et je, pour aller jusqu'au bout de ma pensée, aucune de ces deux situations ne me paraît naturelle.
Mais vous avez l'air de dire que, dans le cas de Nicolas Sarkozy, c'est la fameuse phrase « avec Carla, c'est du sérieux » qui aurait été pratiquement le point de bascule. Tout à coup, il devenait trop familier. Et on peut se dire juste, on se dit « mais attendez, les journalistes, c'est n'importe quoi ». Si effectivement, comme vous le pensez, vous n'êtes pas le seul, Alain Duhamel, c'est lui qui a sauvé les comptes des foyers français, les comptes en banque des foyers français, au moment de la crise des subprimes, et s'il s'est aussi bien conduit pendant cette crise que vous le dites, que vous le décrivez dans votre livre, on se dit quand même, le fait qu'il soit familier, c'est pas très grave.
Oui, mais alors, d'abord, la fameuse phrase de sa première conférence de presse en janvier, c'est un symbole, et ça n'est qu'un symbole.
Avec Carla, c'est du sérieux, vous voulez dire.
Mais ça avait été précédé immédiatement après son élection par toute une série d'autres gestes controversés. Mais surtout, dans cette conférence de presse, le paradoxe, je me la rappelle, mais vraiment comme si j'y étais. C'était en janvier 2008. Il a commencé par faire une très longue introduction, très charpentée, très intelligente, très intéressante. Après quoi, il a répondu aux questions des journalistes, dans lesquelles il y a eu un dérapage spectaculaire et, disons, des familiarités et des à peu près. Son introduction, personne n'en a parlé. C'était fini, elle était gommée. Et on ne retenait que il désacralise complètement la fonction. Et c'était vrai, il désacralisait. Et les Français qui sont toujours contradictoires, et les journalistes comme les autres bien sûr, à la fois adorent fronder et être des élèves dissipés, et en même temps ne supportent pas que leur professeur n'ait pas un comportement de magistère. Ils ne le supportent pas. Et l'idée qu'un président parle comme si c'était un supporter du Saint-Germain, du Paris Saint-Germain, ça les met hors d'eux, y compris ceux qui sont de gauche et y compris ceux qui entre eux parlent de cette façon-là. Vous savez, les gens sont contradictoires.
Alain Duhamel, vous avez également été le premier à interroger Jean-Marie Le Pen à la télévision, mais ça, on en parle dans un instant.
Europe 1 Social Club.
Frédéric Taddeï.
Alain Duhamel, lire une histoire personnelle de la Ve République que vous publiez chez Plon, c'est se reporter en 1984 lors de cette première émission, L'heure de vérité, hein, avec Jean-Marie Le Pen. Vous êtes celui qui l'a interrogé en premier. On a beaucoup contesté la légitimité de cette première invitation. Pourquoi avoir invité Jean-Marie Le Pen en 1984 dans cette émission, L'heure de vérité, qui était vraiment une messe. Elle va durer 13 ans, elle est très importante. On a dit que c'était François Mitterrand qui avait dit qu'il fallait l'inviter. Et vous racontez d'ailleurs dans votre livre que vous avez tous voté pour savoir s'il fallait inviter Jean-Marie Le Pen.
C'est vrai qu'en 50 ans de journalisme, et même un peu plus dans la réalité, c'est la seule fois de ma vie que une équipe à laquelle j'appartenais a voté pour savoir s'il était légitime ou non d'inviter quelqu'un. C'est la seule fois. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, le phénomène Le Pen était complètement nouveau, mais surgissait incontestablement. Il y avait eu une série d'élections partielles dans la banlieue qui avait été autant de percées du Front National. Il se passait quelque chose.
Dont notamment à Dreux,
cinq villes de la banlieue parisienne. Hein, c'était vraiment un phénomène qui existait.
Et le 20e arrondissement de Paris, si je me souviens bien.
Où il était lui-même candidat. À cette époque-là, c'était un sujet de controverse terrible, c'est-à-dire que quand on a pris notre décision, il y a eu des manifestations et contre-manifestations homériques, il y a même eu ensuite une tentative d'attentat, et quand on a fait l'émission, il y avait une compagnie de CRS et un détachement de gendarmes mobiles.
C'était quoi d'attentat?
C'était quand Antenne 2, ça s'appelait Antenne 2, était encore avenue Montaigne, ça avait fait une histoire terrible. Non, vraiment, c'était un sujet plus que d'exaspération de symbole. On dit que c'est Mitterrand qui l'a voulu, c'est pas vrai. Mitterrand a envoyé une lettre, ça c'est exact, à la présidence à l'époque Antenne 2, pour dire il serait normal, effectivement, que Jean-Marie Le Pen puisse être invité à la télévision, puisqu'il représente un courant politique.
À la demande de Jean-Marie Le Pen, qui s'était plaint auprès du président de la République.
Bon, on peut penser que c'était une manœuvre de François Mitterrand, ça me paraît une évidence d'ailleurs, mais ça n'était pas l'heure de vérité qui était nommée. Et la réalité, c'est que c'est nous qui avons voté entre nous. Puis il a fallu convaincre Pierre Desgroupes, qui ne le voulait pas, je me rappelle, c'est moi qui étais chargé de lui expliquer pourquoi c'était normal. Et j'avais voté oui, absolument. Et ensuite, il avait fallu convaincre le conseil d'administration. Bon, en plus, on avait eu cette idée idiote, il faut reconnaître qu'on n'était pas très malin là. La première émission devait avoir lieu le 6 février, ce qui rappelait le 6 février 34. Évidemment, ça, c'était
on
pas très malin.
84.
Et ça a été décalé quand même. Bon, mais pourquoi on voulait faire ça? C'est parce qu'il y avait un phénomène qui existait. Moi, la thèse que j'ai défendue, Dieu sait que ça n'est pas ma tasse de thé, ni de près, ni de loin, ni directement, ni indirectement. Mais je me disais, il y a un phénomène, il se passe quelque chose, eh ben, on doit le traiter. Et puis, comme j'aime bien la compétition aussi, je dis, et puisqu'on doit le traiter, autant que ce soit nous les premiers. Bon ben voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
En 1995, à Strasbourg, vous racontez qu'il y a eu une algarade entre Jacques Chirac et Jean-Pierre Elkabbach après le club de la presse d'Europe 1.
Pendant.
Vous dites que ça a failli mal tourner.
Absolument.
Et puis vous arrêtez là, alors on est très déçus. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ne se sont pas boxés, mais on s'est demandé s'ils allaient le faire à un moment. Et il y a deux personnes qui sont intervenues. Maurice Ulrich, qui était là, qui était l'ancien président d'Antenne 2, donc il connaissait très bien Jean-Pierre et qui me connaissait très bien, et qui était devenu ensuite le directeur de cabinet de Jacques Chirac, qui était très lié avec lui, qui avait de l'autorité et qui a dit, écoutez, n'allons pas trop loin quand même. Et puis moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour détendre l'atmosphère.
Mais
c'est parce que c'était l'extrême fin de la campagne présidentielle. Jacques Chirac avait presque gagné. On était à Strasbourg. D'ailleurs, l'émission s'est faite dans l'aérodrome. Il avait un meeting après, donc il se chauffait déjà. C'était vraiment une de ses toutes dernières émissions. Et il ne supportait pas que Jean-Pierre a fait vraiment son travail de journaliste. Jean-Pierre lui posait des questions qui étaient certainement dérangeantes, mais il était là pour ça. Et Jacques Chirac a absolument explosé. Et j'ai vu le moment où il allait renverser la table et la lui mettre sur la tête. C'était vraiment ric-rac.
Vous faites un métier dangereux, en fait. Vous racontez plusieurs fois où tout à coup Dominique de Villepin qui rentre dans votre loge et qui est en fureur.
Oui, mais là, c'était pas pour me boxer.
Non,
parce qu'en réalité, il est en fureur contre Chirac.
Contre Chirac, par exemple. Mais c'est des moments, j'imagine, sont quand même des hommes de pouvoir.
Oui,
bien sûr.
Sont
des hommes puissants qui peuvent vous nuire sur le long terme.
Il y en a forcément qui me détestent.
Et qui ont peut-être, vous pensez.
Il y en a qui ont certainement souhaité se débarrasser de moi, je ne dis pas physiquement, bien sûr, mais professionnellement, sûrement. Mais d'ailleurs, si j'en connais quelques exemples, oui.
Mais il n'y a aucun moment où vous vous êtes dit « je vais en prendre une ».
Non. Il y a eu des moments qui ont été très agités. Par exemple, je me rappelle à une fête de l'humanité où, à sa demande, j'étais allé interviewer Marché, qui était hyper populaire dans son camp.
Et qui faisait semblant de vous détester avec quelques bâches, voilà. Alors qu'en réalité, vous étiez très copains.
On était donc à la fête de l'humanité, sur l'estrade, et il y avait, je sais pas quoi, il avait 10 000 ou 15 000 partisans, et où je lui avais posé des questions, qui étaient des questions effectivement plutôt belliqueuses, pour dire les choses. Et son public me huait comme il n'était pas possible, et il a réellement fallu, pour que je sorte, que le service d'ordre du Parti communiste m'entoure vraiment pour repousser des gens qui voulaient me... Ils n'allaient pas me pendre non plus. Enfin, ils m'auraient bien bousculé. Et il y avait René Andrieux qui, à l'époque, était le rédacteur en chef de l'Humanité, qui était à la tête et qui s'époumonnait à leur dire « Laissez-le sortir, il a ma parole, laissez-le sortir, il a ma parole. »
En mai 80, où à la télévision, c'est l'heure des grands règlements de compte, et où en fait, vous êtes très proche de Mitterrand, Jean-Pierre Elkabbach aussi, à sa manière.
Et d'ailleurs, en 80, non. Après,
mais vous serez tous les deux considérés comme giscardiens, et lui perdra sa place, d'ailleurs.
Absolument, hein, mon frère aussi, Étienne Moujotte aussi, enfin, oui. Vous savez, bon, que dans la première grande alternance, les choses ne se soient pas bien passées, c'est facile à dire de ma part qui a été protégé en réalité. Mais c'était à peu près inévitable. Non, ce qui m'avait beaucoup choqué à l'époque, mais enfin bon, depuis j'ai fait quelques autres expériences, c'était le comportement d'une partie de la rédaction d'Antenne 2, où des gens qui avaient été quelquefois flagorneurs vis-à-vis de Giscard, brusquement se sont découverts mitterrandistes historiques de façon assez ridicule. Et ça m'a rappelé exactement quelques semaines avant, quand il y avait eu la dernière émission avec Carte sur table, Jean-Pierre et moi, interrogeant François Mitterrand, dont c'était la dernière émission avant l'élection de 81, et quand je lui pose la question, l'ultime question sur la peine de mort, question qui était, enfin, la réponse a été célèbre, l'émission s'est arrêtée tout de suite après, c'est la dernière question. Et son entourage s'est précipité sur moi, en me disant scandale, manœuvre lamentable, vous, juste avant l'élection, vous cherchez à le discréditer, et Mitterrand, qui marchait tranquillement derrière et descendu du podium sur lequel on était installé, m'a mis la main sur l'épaule et m'a dit « Je vous remercie de m'avoir posé cette question, je pense que la réponse aura un certain poids. » Et les mêmes, mais instantanément, bon, se sont précipités sur moi, mais c'était prodigieux, à croire qu'ils avaient déjà oublié ce qu'ils me disaient 2 minutes avant, en me disant « Oh, quel esprit d'à-propos, heureusement que vous étiez là quand même, ça aurait été absurde que la question ne soit pas posée. »
Dernière question, il nous reste très peu de temps, Alain Duhamel, mais toutes les autres que je ne vous ai pas posées, les réponses sont dans le livre. Mais ce moment, au moment de l'affaire Cahuzac, quand vous êtes si ulcéré par les révélations que va faire Jérôme Cahuzac et sa démission, vous parlez de quelque chose de répugnant, on se dit, mais avec tout ce qu'il a traversé avant, et d'ailleurs vous vous posez la question dans ces termes, hein, dans votre livre, on se dit, pourquoi est-ce que ce moment-là, c'est la goutte qui fait déborder le vase? Pourquoi l'affaire Cahuzac et pas tout ce que vous avez pu voir?
D'abord parce que ça faisait des années que dans ce domaine, les affaires s'accumulaient et m'exaspéraient de plus en plus. Ensuite, que parce que depuis deux mois, c'était encore pire. Et enfin, parce que là, l'extraordinaire certitude et le talent formidable avec lequel cet homme brillantissime avait dit qu'il était innocent devant la représentation nationale et devant tous les Français, pour moi, c'était une tâche sur la démocratie. Et ça m'a mis hors de moi. Je reconnais que ce matin-là, j'étais réellement hors de moi. Et je me disais, qu'est-ce que je fais à la radio en train de commenter ce que cet Lubrius a fait, dont on sait très bien que c'est une catastrophe pour la démocratie.
Est-ce que le drame, et on peut bien le comprendre, vous qui avez tant aimé la politique et qui avez vécu son apogée sous la Ve République, les années 80, avec les cohabitations, tout ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que les Français ne croient plus en la politique et au fond, ça vous fait du mal, quoi?
Non, mais c'est une certitude que les Français, en ce moment, la réalité, c'est qu'ils ont une passion pour la politique. En ce moment, il y a un rejet de la politique, mais en même temps, il n'y a pas une indifférence vis-à-vis de la politique. Donc, ça reviendra, mais on est dans la pire des phases. Mais ça, toutes les raisons existent, morales, économiques, sociales. Et puis, il faut bien dire quand même, sans vouloir jouer les vieux messieurs grincheux, que je suis vieux mais pas grincheux, c'est que la taille des personnages aujourd'hui n'est plus la taille des personnages au moment de l'apogée de la Ve République. Ça, c'est la réalité.
Merci Alain Duhamel. Une histoire personnelle de la Ve République. C'est signé Alain Duhamel et ça vient de paraître chez Plon. Dans un instant, c'est Europe Nuit avec William Galibert et nous, on se retrouve demain.